Nos géographies, Dominique Rousset.
La géographie, c'est une discipline qui est née sur une prise de risque considérable d'essayer, dans une époque où les sciences se subdivisaient, se spécialisaient, de maintenir un discours général sur l'homme dans son espace, capable d'intégrer à la fois les caractéristiques physiques de l'espace et les caractéristiques sociales.
Bonsoir à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle édition de Nos Géographies. Dès demain, vendredi et jusqu'à dimanche, la géographie tient son festival déjà célèbre, Saint-Dié des Vosges, 31e édition, certes un petit peu différente sans doute dans sa forme des précédentes éditions, mais tout aussi riche et variée autour d'un thème fort, les climats. France Culture est partenaire du festival et nous avons proposé la semaine dernière déjà les regards croisés de géographes sur l'épidémie de Covid-19, tels qu'ils ont été rassemblés et seront présentés dans ces journées. Ce soir, nous partons à l'horizon des migrations. Nos deux invités, par des voix différentes et à bonne distance des discours politiques si souvent réducteurs, explorent la diversité des parcours de migrants en prêtant attention à leur complexité. Pour l'un, à la transformation des frontières sous l'effet de la mondialisation et du changement climatique. Pour l'autre, aux stratégies mises en place par les femmes et les hommes engagés sur des routes semées d'obstacles, en rappelant aussi l'un et l'autre des vérités parfaitement vérifiables et pourtant obstinément inaudibles. Bonsoir Lucie Bacon, bonsoir François Jemaine.
Bonsoir.
Lucie Bacon est donc doctorante en géographie. Elle termine sa thèse, la fabrique du parcours migratoire, la route des Balkans, la fameuse route des Balkans, dont on a tant parlé dans l'année 2015 et les suivantes, au prisme de la parole des migrants. Vous êtes, Lucie Bacon, au laboratoire Migrinter, laboratoire du CNRS, qui travaille énormément sur ces questions de migration basée à Poitiers, et également laboratoire Télém, c'est l'université d'Aix-Marseille, d'où vous venez nous retrouver pour cette émission, un travail de terrain, donc au plus près des intéressés. On va y revenir longuement. François Jemaine n'est pas géographe, il est spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. Il est invité à Saint-Dié, donc pour cette édition de ce week-end, pour présenter son dernier livre au titre explicite « On a tous un ami noir ». Pour en finir avec des polémiques stériles sur les migrations. Ça vient de paraître tout récemment aux éditions Fayard, un ouvrage assez personnel et très engagé, ce qui ne surprendra pas si on connaît François Jemaine, qui a été directeur exécutif d'un programme de recherche sur les politiques de la Terre. C'était à Sciences Po, laboratoire Media Lab, qui enseigne, je crois, également en Belgique.
Si où je suis affecté à un département de géographie, figurez-vous. En tant que politologue, j'ai réussi le tour de force de me faire affecter à un département de géographie.
Un politologue en géographie, c'est encore mieux, vous voyez, j'ignorais ce détail. Et Lucie Bacon, pourquoi la géographie? Pourquoi ce choix de thèse, les migrants, dans ce très fameux, je l'ai dit, corridor des Balkans?
Alors je pense qu'il y a plus un choix à travailler sur les migrations qu'à travailler en tant que géographe à l'origine. C'est un petit peu un hasard, la géographie. J'ai suivi un cursus à la Sorbonne, une double licence d'histoire géo, parce qu'il se trouvait que j'étais pas trop mauvaise dans cette discipline quand j'étais en prépa littéraire. Et puis j'avais quand même un grand intérêt dès l'origine pour les cartographies. Voilà, mais je connaissais pas grand-chose de la géographie. Et je pense que c'est surtout le choix de travailler sur les migrations qui, lui, a été un choix plein. C'est un peu du bricolage, ce choix. C'est à l'origine, c'est un documentaire qu'on nous a montré justement à l'Institut de Géo dans le cadre d'un cours sur la géographie sociale, qui est un documentaire sur ce qui se passait à Calais. Et puis, une année sabbatique où je suis allée vivre à Sarajevo, parce que j'avais suivi un cours d'histoire sur les Balkans quand j'étais à la Sorbonne. Et la découverte, là-bas, un peu par hasard, en rencontrant quelqu'un du réseau Migre-Europe, qui est un réseau de chercheurs et de militants qui travaillent, qui œuvrent à dénoncer les politiques migratoires et leurs effets néfastes sur les vies humaines.
Et l'appartenance dans ce laboratoire Migrinter, j'ai envie de citer Olivier Clochard, avec qui vous avez travaillé,
un directeur scientifique. Richard est un des cofondateurs du réseau Migreurope. Voilà. Et du coup, quand j'ai découvert les rapports de Migreurope, j'ai nécessairement découvert Olivier Clochard qui est là-bas maintenant en tant que directeur. Ouais.
Vos deux approches donc partent d'un même phénomène depuis 2015, l'augmentation des arrivées au sein des États de l'Union européenne, le renforcement des frontières extérieures pour, je cite, réguler les flux, qui évidemment s'accompagnaient d'ouverture de nouveaux camps, d'externalisation de l'accueil, de tout ce que l'on sait de ces mesures politiques, une militarisation aussi largement accrue, surveillance et le reste, lutte contre l'immigration clandestine, donc qui s'intensifie aux frontières de l'Union européenne et des migrants qui se voient contraints de prendre de plus en plus de risques, situation que l'on retrouve ailleurs dans le monde, hein, si l'on va du côté, par exemple, du Mexique et des États-Unis.
Ministre de la Liberté d'aller et venir, je propose qu'au cours des 5 ans qui viennent, soit progressivement instauré un nouveau régime de franchissement des frontières fondé sur un principe de fluidité. Celle de revenir chez soi.
Un court extrait d'une exposition, donc Lucie Bacon, je vais dans le sens de ce que vous venez de nous dire, exposition Moving Beyond Borders, qui est une exposition itinérante créée justement par Migreurope et un collectif d'artistes nantais.
Étrange miroir, oui.
Étrange miroir et qui est toujours en itinérante. François Gemène, la crise des migrants, donc qui vient interroger, on l'a dit, tout un système de frontières dans les pays européens confrontés à ce qu'ils appellent les politiques et beaucoup de citoyens, des afflux massifs de migrants. Or, toujours rappeler que ce sont des chiffres en valeur absolue plutôt que relative qui sont proposés là. En revanche, une réalité, depuis 25 ans, près de 40 000 migrants seraient morts ou disparus par noyade, par épuisement aux frontières européennes, dont pour la seule année 2016, un chiffre effrayant de 6 000.
Effectivement, c'est l'année 2016 qui était celle d'un triste record, mais on peut avoir l'impression aujourd'hui que ce qu'on appelait la crise des réfugiés de 2015 ou 2016 est derrière nous, et la réalité c'est que les naufrages en Méditerranée continuent, avec déjà plus de 600 morts pour la seule année 2020, alors que les flux ont été considérablement ralentis par la crise du coronavirus. Et donc, effectivement, on se trouve aujourd'hui dans une sorte de logique, d'imaginaire et de narrative de crise dont on ne parvient pas à sortir. Et pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à en sortir? Parce qu'un grand nombre de leaders politiques ont tout intérêt à installer ce narratif de crise dans l'opinion, parce que lorsque nous sommes en crise, nous avons une tendance naturelle à nous sentir plus rassurés lorsque les frontières sont fermées. On l'a bien vu à l'occasion de cette crise du coronavirus, la fermeture des frontières, c'était la mesure sanitaire plébiscitée par 8 Français sur 10 qui souhaitent même que ces frontières restent fermées après la crise du coronavirus. Et donc, plus on va entretenir un narratif et un imaginaire de crise, plus le support pour la fermeture des frontières va augmenter. Or, le problème, c'est que ce sont ces frontières fermées qui vont créer les crises humanitaires et le chaos migratoire. Ce sont bien ces frontières fermées qui vont être les premières responsables des morts en Méditerranée et des chiffres terrifiants que vous avez cités, plus nous allons fermer les frontières, plus le chaos va s'accentuer et plus les drames vont continuer. Aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de pouvoir repenser ces questions de migration autrement, de manière à pouvoir sortir de ce cercle vicieux.
Vous dites parfois que les scientifiques, dont vous faites partie tous les deux, ont leur responsabilité dans ces analyses, non pas dans l'aspect catastrophique de flux massifs, mais peut-être, de manière un peu, j'allais dire presque naïve, avez-vous pensé qu'il suffisait d'opposer des chiffres incontestables à ce type de discours plus politique ou plus orienté ?
Je crois que parfois, effectivement, on n'a pas suffisamment réalisé qu'il n'y avait pas une seule vérité en matière de migration et que ce qui comptait pour les gens, c'était aussi parfois la manière dont ils percevaient les migrations. Et parfois, on a cru qu'en opposant des faits et des chiffres à des perceptions subjectives, on allait quelque part réinsuffler de la raison dans le débat. Le problème, c'est que quand on vous dit qu'il y a 9,7% d'immigrés en France, par exemple, si vous habitez un quartier avec une forte population immigrée, vous allez vous dire, non, on me raconte n'importe quoi. Ce chiffre ne veut rien dire pour moi. Je le vois bien autour de moi, dans les magasins, dans la classe de mes enfants. Je vois bien que ce chiffre est beaucoup plus élevé. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire au niveau des scientifiques pour quelque part aller aussi sur le terrain de ces vérités subjectives et reconnaître l'importance de ces perceptions.
On rappelle quelques chiffres. Migration internationale, aujourd'hui encore, elles ont toujours existé, bien entendu, hein, 19e siècle. Elles concernaient d'ailleurs surtout les Européens qui bougeaient beaucoup. Aujourd'hui, 3% de la population mondiale serait migrante. Mm-hmm. Et autre point important, mais qu'on a souvent rappelé dans des émissions France Culture et ailleurs, ces flux prennent essentiellement place entre pays du Sud. Il n'empêche, le travail du géographe dans cette configuration, Lucie Bacon, quel doit-il être ? Déconstruire des a priori, comme on vient de le voir, travailler à partir des frontières ?
Oui, quand on travaille sur les migrations internationales, c'est en particulier en tant que géographe, c'est changer les échelles, je pense. En grande partie, les échelles géographiques, vous venez de le dire. Hein. Si on regarde à l'échelle du monde, il y a 3% de migrants. Et puis si on regarde à l'échelle des continents, on se rend bien compte qu'effectivement, la plupart des migrations s'effectuent du sud au sud. Donc c'est changer les échelles géographiques parce qu'effectivement, si on est focalisé sur le nombre de migrants qui passent les frontières de l'Union européenne, on a l'impression que c'est colossal, quoi. Si on déplace un tout petit peu la focale pour voir comment, par exemple, les pays tels que la Turquie, le Liban accueillent notamment les réfugiés syriens, on se rend compte que les chiffres sont triples, voire, je les ai pas en tête, mais c'est pour moi, je pense que c'est changer d'échelle. Ça, c'est une partie du travail du géographe puisque c'est des outils qu'on a, notamment via la cartographie. Et puis après, une grande partie du travail du géographe, je pense, sur les migrations, c'est d'aller sur le terrain pour essayer de recueillir différents points de vue. C'est pas aborder les migrations internationales que du point de vue politique ou du point de vue des chiffres. C'est aussi l'aborder, par exemple, du point de vue des premiers concernés, les migrants eux-mêmes, en fait.
Ce que vous avez fait, on va y revenir plus dans le détail. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un tournant, alors là je parle dans le tournant géographique, proprement dans les étude des migrations, est-ce qu'on ne s'est pas plus attaché au départ à la fixité, à ceux qui restaient sur place qu'à ceux qui se déplaçaient, avec peut-être de nouveaux outils aujourd'hui? On a un autre rapport à l'espace.
Oui, je pense que de ce que je connais, je pense que le laboratoire Migrinter, sans doute pas le seul, mais en tout cas la fondation du laboratoire Migrinter en 85 par un géographe, Gilles Dassimon, a beaucoup contribué en tout cas à ce tournant-là avec ce qu'il appelait la spatialisation du regard. Donc c'était regarder pas uniquement ce qui se passe dans le pays d'accueil avec une immigration qui va effectivement être bloquée de par les politiques françaises qui vont être mises en place, mais c'est aussi regarder tout ce qui se passe dans le temps du déplacement, entre le pays d'origine et le pays d'arrivée, tout ce qui se passe dans les mouvements de retour. C'est vraiment observer la migration sous l'angle de la circulation et pas uniquement de la fixité et de la sédentarité.
Je crois que cette question du changement d'échelle que permet notamment la géographie est vraiment très très importante parce qu'on a tendance, quand on regarde le débat public aujourd'hui sur les migrations, à regarder les questions de migration uniquement par rapport à soi-même. Au fond, ce qui nous intéresse dans le débat public, c'est pas tellement de savoir pourquoi les gens migrent, d'où ils partent, où ils vont, c'est de savoir combien de personnes vont arriver chez nous. Et là, puisqu'on en est à faire le nostra culpa des chercheurs, je pense qu'il faut admettre que nous, chercheurs, nous sommes aussi très souvent retrouvés piégée quelque part par des cadres de pensée de l'extrême droite. Combien de fois ne suis-je pas sollicité pour faire des débats pour savoir si les migrants sont une chance ou un fardeau pour la société ? Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de raisonner ? Est-ce qu'on oserait se demander avec d'autres catégories de la population, avec les personnes âgées ou avec les handicapés, s'il s'agit d'une chance ou d'un fardeau pour la société ? Imaginez le tollé que ça susciterait, et à juste titre. Mais quelque part, nous avons accepté de nous laisser enfermer dans ces cadres de pensée de l'extrême droite et de réduire finalement très souvent le rôle du chercheur à un rôle qui consistait à débusquer les mensonges, les rumeurs et les a priori. Et je pense qu'il faut retrouver véritablement en tant que chercheur une position plus assertive dans ce débat qui consiste aussi à poser les questions et pas seulement à apporter les réponses aux questions de l'extrême droite.
Je l'ai dit en commençant, François Gemène, on a tous un ami noir, donc c'est le titre de votre ouvrage. C'est, vous le dites vous-même, le point de vue d'un privilégié. Parce qu'au fond, ce qui vous dérange dans toute cette affaire-là, c'est que la condition des migrants est liée à une injustice fondamentale dont ils sont bien involontairement les victimes, celle du lieu de naissance. Un exemple très fort, un passeport français, sixième passeport le plus puissant au monde, permet de voyager dans 186 pays et territoires. Je ne parle pas évidemment de la période que nous vivons, sans visa préalable. À l'inverse, des pays en guerre ou en crise ou très pauvres et qui occupent les dernières places de ce classement. D'où vient-il ce classement d'ailleurs ? J'en sais rien.
Une agence qui s'occupe essentiellement de vendre des passeports aux plus fortunés. D'accord. Aujourd'hui, on peut acheter certaines nationalités assez pratiques, notamment, on l'a vu, en période de crise du coronavirus.
Voilà, donc si vous avez un passeport afghan, irakien, syrien, pakistani, yéménite, beaucoup d'autres, vous ne pouvez voyager que dans 35 pays, en général assez proches, et sans visa.
Effectivement. Il y a une injustice fondamentale qui est l'injustice du lieu de naissance. Et quelque part, avec la crise du coronavirus, les Européens se sont retrouvés confrontés aux mêmes restrictions de circulation que celles qu'ils imposent depuis des années et des années à ceux qui sont nés sur la rive sud de la Méditerranée.
Suspension d'ailleurs de demande d'asile partout, puisqu'on parle de la Covid, c'est peut-être le moment de le dire, hein, ceux qui étaient là depuis longtemps... travailler sur les fameux premiers de cordée, mais tous les autres suspensions, comme si tout d'un coup on était déconnecté de ce problème.
Et ce qui est frappant, pour revenir au titre « On a tous un ami noir », c'est effectivement de voir comme les questions de racisme aujourd'hui prennent de plus en plus de place dans les débats publics, et comme toute une série de nos politiques d'asile et d'immigration, finalement, aboutissent à déshumaniser considérablement les migrants, et donc sont fondamentalement racistes. Et quelque part, nous en sommes tous responsables. C'est le problème des démocraties, c'est qu'on est un peu tous comptables des actions posées par nos gouvernements. Et on a aujourd'hui, je crois, dans nos sociétés, un racisme qui n'est pas seulement le fait de paroles ou de comportements individuels, mais qui est véritablement systémique et que nous refusons de reconnaître, de la même manière que les racistes utilisent toujours cette sempiternelle excuse de l'ami noir pour se défendre de tout racisme.
D'où votre titre. Alors, on avance sur le débat sur l'immigration déconnectée de la réalité, une logique très, très binaire, et là vous vous rejoignez dans vos travaux l'un et l'autre. Au fond, on est pour ou contre l'immigration, il y en a trop ou pas assez. Lorsque l'on parle des mouvements migratoires, on le voit du point de vue soit des gouvernants, soit de ceux qui leur portent assistance et secours, mais jamais, c'est tout à fait au centre de votre travail, Lucie Bacon, jamais du point de vue des plus concernés. Au fond, on se rend compte que tous les travaux, même s'il y en a de plus en plus, font l'impasse un peu sur ce qu'ils ont à dire. Je ne parle pas bien entendu de reportage journalistique.
Oui, alors bon, il y a quand même tout un champ de travail sur l'immigration internationale qui travaille à partir de ce point de vue-là. Je suis loin d'être la première. Mais effectivement, c'est un point de vue que j'ai décidé de mettre au cœur de ma thèse pour interroger non pas finalement la frontière et le dispositif de contrôle qui existe et qui est accru et qui est un dispositif qui est mis en place depuis des années et qui est de plus en plus fort. Non pas donc pour parler de ce rôle de la frontière, mais plutôt de poser la question de, dans ce contexte-là, comment les migrants parviennent malgré tout à créer de la continuité, là où le politique tente de faire rupture. Comment le migrant, les migrants, les personnes migrantes, y compris dans des situations les plus périlleuses, restent inventeurs, créateurs, et ne sont pas assujettis, et réussissent malgré tout à construire de la continuité, bien entendu dans un contexte où c'est de plus en plus éprouvé par les politiques migratoires qui sont de plus en plus restrictives, et y compris par les logiques d'enfermement qui président. Mmh. Mais c'était un choix aussi de, à un moment donné, arrêter de donner trop d'importance à la frontière, finalement, qui existe, qui est réelle, essentiel, hein. Mais à un moment donné, redonner aussi du pouvoir aux personnes qui sont sur les routes et qui, bien sûr, pour lesquelles c'est de plus en plus difficile d'avancer, c'est quelque chose que je ne nie absolument pas, mais qui, malgré tout, parviennent à leur but, en tout cas, parmi celles que j'ai rencontrées, dans le contexte où je les ai rencontrées, qui était le contexte de 2015, qui n'est pas tout à fait le même qui est à l'heure actuelle, 5 ans plus tard.
Oui, on va y revenir et on va le décrire.
Parce qu'on a toujours cette vision des migrants comme étant des victimes. Et on reste prisonnier de cette phrase un peu dégueulasse de Michel Rocard en 89, quand il les désigne comme la misère du monde. Chaque fois qu'on voit des migrants dans le débat public, c'est dans des situations humanitaires un peu extrêmes, des naufragés sur des bateaux ou des gens qui s'entassent dans des camps humanitaires dans des conditions désastreuses. Ça va générer chez les gens uniquement un registre émotionnel, soit de l'empathie ou de la pitié, soit de la peur et des angoisses, mais on va jamais reconnaître aussi la capacité d'action de ces migrants, le fait que ces gens vont braver des tas d'obstacles, vont investir des sommes considérables, vont prendre toute une série de risques pour arriver à destination, et c'est pas la frontière qui va les arrêter.
Oui, absolument. Et je crois qu'il y a aussi un deuxième argument, c'est qu'en donnant la parole aux migrants, donc aux premiers concernés en fin de compte, c'est le seul moyen, ce sont les seuls dépositaires en fait d'un savoir que nous n'avons pas. On ne peut pas comprendre les migrations internationales à un moment donné si on ne demande pas à ces personnes-là quelles sont en fait les clés de la fabrique du parcours migratoire. Et donc c'est aussi pour ça, je pense que c'est important en fait de se placer de ce point de vue-là, parce que encore une fois, ils sont dépositaires d'un certain un vécu qui est singulier et que nous, en tant que chercheurs, on ne connaîtra jamais.
Où aller, sais pas où aller.
France Culture, nos géographies, Dominique Rousset.
Je suis en compagnie de François Chemaine, politologue, mais qui enseigne dans un institut de géographie, nous a-t-il dit, en Belgique, et de Lucie Bacon, qui termine une thèse sur la route des Balkans. Elle va nous raconter comment elle a rencontré ces migrants. C'est vraiment la base de son travail, cette approche des parcours des migrants dans une année très spéciale et très dramatique. 2015, on s'en souvient sans doute, où le contexte politique était particulièrement tendu. Vous dites, François Chemaine, qu'il faut parler de deux manières, au fond, de ces questions des migrations. C'est une évolution structurelle du monde et pas du tout conjoncturelle. Et ça, c'est un fait qu'il faut avoir en tête. Et puis un droit fondamental, là, je pense que vous faites davantage allusion à cette malchance de la naissance, au fond, hein,
qu'on stigmatise beaucoup. L'article 13, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que chacun a le droit de quitter tout pays, y compris le sien.
Pourquoi une évolution structurelle du monde ?
Parce que l'histoire du monde a toujours été façonnée, jalonnée par les migrations humaines. Elles ont toujours existé, elles ont été à des niveaux beaucoup plus importants que les niveaux actuels dans le passé. Dans l'entre-deux-guerres, on avait des niveaux de migration internationale de l'ordre de 6% ou même 10% certaines années. Et malgré ça, nous continuons à voir les migrations comme une sorte d'anomalie. Une sorte d'impensée politique, quelque chose qui, dans un monde idéal, ne devrait pas exister. Alors, on va déployer des solutions différentes. Certains vont vouloir ériger des murs et des barrières pour empêcher les gens de venir. D'autres vont dire, comme Miss France, il faut la paix partout dans le monde et le développement partout dans le monde pour éviter que les gens ne doivent partir. Mais on reste prisonnier de ce que j'appelle le paradigme de l'immobilité, c'est-à-dire l'idée que, dans un monde idéal, les gens ne migreraient pas. Or, ils ont toujours migré, et ça a toujours été aussi un vecteur de progrès et de développement, mais malgré ça, on continue à le voir comme quelque chose de conjoncturel, et il en débouche comme une sorte de problème à résoudre, ou de crise à gérer. Il en résulte une sorte de volonté politique permanente de vouloir résister aux migrations, de vouloir les contrôler, les maîtriser, les juguler, comme s'il était quelque part possible de leur résister. Or, c'est un projet politique qui, par nature, est vain dès le départ. C'est comme vouloir empêcher la nuit de succéder au jour. Et donc, moi, je plaide pour qu'on essaye d'organiser les migrations, de les considérer comme une transformation structurelle qui, effectivement, apporte un certain nombre d'opportunités, aussi un certain nombre de risques et de dangers qu'il ne faut pas négliger. Donc, je ne vais pas faire d'angélisme ici sur cette question. Mais vraiment, il faut qu'on se place en position de pouvoir les organiser. C'est seulement à ce prix-là qu'on sortira de la crise et qu'on parviendra à essayer de tirer un maximum de bénéfices des migrations.
Au chapitre des idées reçues ou des a priori, on peut peut-être ajouter ce qui s'est passé avec Schengen. Schengen, la première partie, hein, 95, donc frontière ouverte au sein même de l'Europe. On n'a pas vu arriver les Européens du Sud vers l'Europe du Nord, mieux nantis. C'est un peu ce que...
Il n'y a pas eu d'exode massif de la Grèce vers la Belgique. Lorsque les pays d'Europe centrale et orientale ont, à leur tour, rejoint l'espace Schengen, il n'y a pas eu de migration massive de Bucarest vers Stockholm, alors que le différentiel de développement entre la Roumanie et la Suède est au moins comparable à celui qui existe entre les pays du sud de l'Europe et les pays du nord de l'Afrique. Quelque part, nous avons sans cesse sous nos yeux la démonstration que ce ne sont pas les frontières ouvertes qui vont provoquer une sorte de ruée migratoire, ni d'ailleurs les frontières fermées qui vont empêcher les migrations. On rappelait que l'Europe a été confrontée à un des flux migratoires les plus importants de son histoire récente au cours des dernières années, et pourtant les frontières extérieures de l'Europe n'ont jamais été aussi surveillées. Il y a des patrouilles de l'OTAN qui essayent de pister les embarcations de migrants. On persiste à croire que les frontières sont la variable d'ajustement structurel des migrations qui vont nous permettre de déterminer s'il y a plus ou moins de gens qui viennent, mais ça ne marche pas comme ça. Les migrations sont déterminées par des facteurs extérieurs qui dépassent largement le champ d'action de nos politiques, mais quelque part on s'enferme dans cette vanité qui consiste à penser qu'on peut contrôler les migrations en ouvrant ou en fermant les frontières, alors que le seul effet de la fermeture des frontières sert de rendre les migrations plus dangereuses, plus coûteuses, et donc à la fois de les rendre plus meurtrières et d'entretenir le business des passeurs.
On pourrait vous dire d'ailleurs que vous parliez de l'Europe centrale et orientale au moment de l'ouverture. Alors c'était un peu plus tard, hein, 2007, de l'espace Schengen à ces pays. Mais le plus grand nombre de migrants, finalement, c'était des Polonais. Ils sont dirigés vers le Royaume-Uni.
Vers le Royaume-Uni.
Qui n'est pas dans l'espace Schengen.
Qui n'a jamais été dans l'espace Schengen.
Il faut le rappeler, mais c'est une anecdote. Lucie Vacon, donc revenons alors de plus près à votre travail. Donc c'est cette fameuse crise migratoire, hein, de l'été 2015. Ce que vous appelez la fabrique du parcours migratoire, c'est la route des Balkans. Alors de quoi s'agit-il lorsque l'on parle de cette route des Balkans? On a même parlé d'un corridor.
Oui, alors c'est deux choses distinctes. La route des Balkans, ça désigne vraiment un axe de circulation, en fait. C'est un faisceau d'itinéraires qui passe par la région dite des Balkans occidentaux, donc qui recouvre ces pays de l'ex-Yougoslavie avec l'Albanie en plus et la Slovénie en moins. Mais c'est avant toute chose un concept politique, la route migratoire. C'est un concept politique qui est inventé par l'Union européenne pour identifier une zone dite de passage où il y aurait beaucoup de migrants qui tenteraient d'entrer en Croatie en l'occurrence et en Hongrie par cette zone, donc une porte d'entrée dans l'Union européenne. Et donc, ils vont déterminer qu'il s'agit d'une route migratoire importante pour ensuite justifier la mise en place d'un dispositif de contrôle dans cette région-là. En tout cas, la route des Balkans, c'est effectivement un lieu par lequel passaient un certain nombre de migrants avant 2015 déjà. Hein. La route des Balkans n'est pas née en 2015, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Ce qui a été mis en place à partir de 2015, et la confusion a été très répandue, c'est un corridor, ce qu'on a appelé un corridor. Mais là encore, c'est pas vraiment, ça répond pas vraiment à cette définition, le corridor. En fait, ce qui a été mis en place, c'est une sorte de dispositif politique un petit peu improvisé, qui a quand même, dont le déclenchement a été la déclaration d'Angela Merkel d'ouvrir, entre guillemets, les frontières, en tout cas d'accueillir, voilà, les réfugiés qui se présentaient à ces frontières.
Un million.
Et du coup, tout le dispositif s'est ensuite mis le long de la route des Balkans, si vous voulez, à peu près de la frontière gréco-macédonienne jusqu'en Allemagne. Les autorités de chaque pays étaient là pour canaliser le mouvement. Donc, sous couvert d'enjeux humanitaires, de faire cheminer ces personnes au plus vite. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même un enjeu sécuritaire qui était d'enregistrer, de contrôler les personnes et de les canaliser tout au long de la route.
Il faut rappeler peut-être le contexte politique, grande instabilité politique dans beaucoup de régions d'Afrique et d'Asie. L'intensification des conflits, bien sûr, nous sommes en pleine guerre en Syrie, en Irak, en Afghanistan également, et François Jamel en a parlé, un renforcement du contrôle en Méditerranée, tout ça concentré vers cette zone. Et cette route migratoire, cette route des Balkans a été qualifiée ainsi par l'agence européenne Frontex 2015, c'est donc la route principale, 800 000 migrants auraient transité dans cette seule année par la route
Ouais,
à la route des Balkans.
Et en partie par le corridor, mais pas exclusivement, puisque les migrants étaient déjà en nombre sur ces routes avant que le dispositif politique soit créé pour accompagner ce mouvement. Mais le mouvement était déjà là, en réalité. Comme vous le dites, la route des Balkans, ça a pour particularité d'être une sorte de point de convergence entre des routes au départ de l'Asie, de l'Afrique, et aussi de manière minoritaire, et c'est assez inédit, de l'Amérique centrale, puisque pendant la crise de 2015, il y avait aussi des Cubains qui arrivaient dans cette zone par la Russie puis le Monténégro et qui transitaient ensuite vers l'Union européenne.
Voilà, ce qui a mis cette région, bien sûr, au cœur de l'attention politique, médiatique aussi, et humanitaire. François Jobin, vous connaissez bien sûr.
Très important dans ce qui vient d'être dit, c'est le fait que la décision politique suit le flux migratoire. Et donc, on a souvent tendance à imaginer que c'est la décision politique qui va influencer le flux migratoire. Les gens s'imaginent que Angela Merkel va ouvrir les frontières de l'Allemagne et que d'un coup, tous les réfugiés syriens vont venir. Ou vont imaginer qu'on va fermer la route des Balkans et que d'un coup, les réfugiés vont arrêter de venir par cette route. En fait, ce sont des décisions politiques qui suivent les flux migratoires. Merkel, elle ouvre les frontières de l'Allemagne parce que les réfugiés arrivent déjà. On ferme la route des Balkans au moment où cette route n'est déjà plus empruntée. Et donc, on mélange systématiquement la temporalité des actions et des gestes politique posée avec les flux migratoires. Les gestes politiques suivent les flux migratoires, mais ne les précèdent pas et les déterminent encore moins.
Comment avez-vous travaillé, Lucie Vacon? Vous êtes rendue sur place, vous l'avez dit hein, tout à l'heure. C'est le moment où vous avez décidé de démarrer cette thèse. Et vous avez rencontré ces familles, je le précise, dans des lieux qui n'étaient pas trop sensibles, pas des lieux de trop grande vulnérabilité, c'est-à-dire pas au milieu des camps dans où les situations étaient même déplorables. Et vous avez parlé assez longuement, je crois qu'il y a eu une quarantaine d'entretiens.
Alors du coup,
33 exactement.
Ouais, si c'est vrai. Du coup, j'insiste quand même que j'ai commencé sur cette thèse avant la crise. Donc, ça a été...
C'était déjà votre sujet avant la crise de 2015.
Oui, ça a été déjà mon sujet. J'ai commencé en Master 2 à travailler sur cette question-là. Donc, ça a été d'autant plus perturbant, encore que quand même relativement prévisible. Mais oui, effectivement, et les conditions sur le terrain, entre guillemets, ont considérablement changé. Quand j'y suis allée beaucoup entre 2013 et 2016. Et en 2015, donc, j'ai fait une entrée sur le terrain par les lieux, qui étaient les lieux de passage principaux, pour effectivement y rencontrer les personnes migrantes. C'était un choix d'aller sur les routes de la migration pour rencontrer les personnes. J'y allais pas forcément dans l'intention d'éliciter d'emblée le récit migratoire, qui est le matériau principal à partir duquel je travaille pour ma thèse. Et comme vous le dites très justement, de toute façon, les conditions sur place ne le permettait pas, c'était tout à fait indécent pour moi, en tout cas selon les circonstances, de demander à ces personnes-là de se raconter dans ces conditions. Donc du coup, c'était plus prendre le temps de la rencontre, des observations bien sûr, pour nourrir ma réflexion, et puis ensuite avoir la chance de pouvoir aller revoir ces personnes une fois qu'elles étaient arrivées dans les pays d'arrivée, d'accueil, de destination, je ne sais plus trop comment on doit dire, en tout cas les pays dans lesquels elles sont restées, donc l'Allemagne, la Suisse, la France, l'Italie, et donc cette chance de pouvoir les revoir dans des conditions beaucoup plus confortable pour elle, bien que pas parfaite.
Avant d'aller plus loin, peut-être l'occasion de dire, François Gemène, c'est une autre thèse que vous défendez vigoureusement dans votre livre et qui peut surprendre d'abord ces personnes, les familles, dans l'occurrence là sur cette route des Balkans, mais ailleurs aussi, qui prennent la route comme ça, qui décident de quitter leur pays, ne sont pas les plus pauvres. Et là, vous faites une sorte de lien et parfois un peu provoquant entre eux. En gros, arrêtons de penser que plus on va apporter d'aide au développement, moins ils partiront, car ce ne sont pas les plus pauvres qui s'en vont.
Il y a aujourd'hui un lien très fort qui est fait de plus en plus entre les politiques d'aide au développement et les politiques migratoires. Et les deux agendas sont de plus en plus liés, y compris dans les négociations bilatérales avec les pays qui reçoivent cette aide. On va leur dire, voilà, on va vous donner X milliards d'aide au développement, à la condition que vous acceptiez de reprendre chez vous les déboutés du droit d'asile, à la condition que vous empêchiez les départs, à la condition que vous contrôliez mieux vos frontières, comme si les deux agendas étaient liés, et comme si, en augmentant l'aide au développement dans les pays de départ, quelque part, on allait rendre les gens plus riches et que ça allait les empêcher de partir. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que la migration coûte très cher, que la migration est un énorme investissement pour ceux qui partent, et que le principal obstacle à la migration, ce n'est pas les frontières fermées, c'est souvent l'argent, le fait que les gens n'ont pas les moyens d'investir dans la migration. Ce qu'on constate, c'est que si le niveau de développement d'un pays augmente, en d'autres termes, si les gens sont plus riches, il y aura davantage de gens qui auront accès à la migration. Et tant qu'il restera un différentiel de développement entre le pays de départ et le pays d'arrivée, les gens vont continuer à partir. Les gens qui arrivent en France, ils ne viennent pas des pays les plus pauvres d'Afrique, ils ne viennent pas de République centrafricaine ou du Sierra Leone, ils viennent des pays du Maghreb, ils viennent du Sénégal, de Guinée ou de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des pays qui sont un cran au-dessus dans l'échelle de développement.
On peut dire la même chose du Mexique et des États-Unis.
On peut dire la même chose du Mexique vers les États-Unis, absolument. Si on continue à penser que c'est le développement qui va servir pour freiner l'émigration, pardonnez-moi l'expression, mais on se fourre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Et les recherches montrent que tant que le salaire des gens augmente, leur propension à migrer augmente également, jusqu'à arriver à un niveau d'environ 15 000 dollars de salaire annuel par an. C'est-à-dire, on est très très loin de ça dans la plupart des pays en développement.
Mais qu'est-ce que vous voulez alors, qu'on arrête l'aide au développement?
Absolument pas.
Et pourtant, elle est bien insuffisante.
Certainement pas. L'aide au développement est bien insuffisante et bien sûr, il faut pouvoir l'augmenter. Mais il ne faut surtout pas imaginer que ça va servir à arrêter l'émigration, parce que c'est alors, à ce moment-là, qu'on risque de mettre en danger véritablement l'aide au développement. Et donc, il faut absolument délier les deux agendas.
Qui sont les gens que vous avez rencontrés, Lucie Bacon? Ils ressemblent à ces portraits qu'on vient d'avoir?
Bah oui, tout à fait. Ouais, déjà, ça concerne beaucoup de régions du monde différentes, et c'est effectivement des personnes qui sont, alors qui n'ont pas toutes accédé à des études, mais pour certains, oui. C'est vrai que j'ai rencontré 33 personnes. Je dirais que il y a un peu beaucoup plus de la moitié qui avaient déjà fait des études et qui avaient l'intention d'ailleurs de les continuer en Europe. Pas du tout des profils effectivement de miséreux, absolument pas. Et d'ailleurs, ça m'a fait drôle parce que quand je les ai rencontrés sur les routes, ils étaient dans des vêtements, quand on est allé voir sur les photos qui sont largement diffusées par les médias, et d'avoir la chance de les revoir dans les pays une fois arrivés, je ne les ai pas reconnus, quoi, rasés, sans le bonnet, sans l'écharpe. De fait, j'avais affaire à des hommes comme à ce qu'ils ressemblaient dans leur pays d'origine, probablement, quoi.
Juste un chiffre ici qui est très éclairant. Depuis le 2017, la proportion des migrants africains qui arrivent en France et qui sont diplômés de l'enseignement supérieur est de 37%, c'est-à-dire un chiffre qui est le double du chiffre de la population française qui est d'environ 18%. Et donc il y a un décalage évident entre la réalité de ce que sont les migrants, qui sont souvent des gens parfois assez privilégiés, diplômés, et les images que les médias en véhiculent.
Alors avant d'en arriver à ce qui s'est passé quelques années après cette fameuse année charnière 2015, je reviens encore vers votre travail vraiment de terrain. Lucie Bacon, c'est très éclairant pour notre discussion. Vous avez travaillé avec quels outils? Parce que jusqu'ici, on peut se dire, mais au fond, ce qu'elle nous raconte là, c'est une analyste, elle pourrait être sociologue. Mais le géographe se distingue du sociologue parce qu'il n'a pas les mêmes outils.
Ben oui, effectivement, là, si on parle des outils méthodologiques, les géographes empruntent beaucoup à l'anthropologie, la sociologie. J'ai parlé tout à l'heure de récits de vie, de récits migratoires. C'est pas un outil à proprement parler géographique. Après, c'est plus dans l'analyse et dans les termes qu'on emploie, en fait, que je me sens entre guillemets géographe, puisque il est question de parcours, il est question de route, il est question d'espace, de rapport au lieu, de représentation spatiale, d'espace vécu. Donc c'est tout un arsenal conceptuel qui a été qui est ancré dans la discipline géographique. Et donc c'est plus dans la théorie, en fait, qu'on se revendique géographe, je pense.
Construisez des cartes aussi lorsque vous faites ce type de travail.
Aussi de la cartographie, oui. C'est vrai que ça m'ancre clairement dans la discipline géographique aussi, oui, tout à fait.
Mais vous la faites différemment.
Je fais des cartographies à la main. À la base, ça part d'une insuffisance technique. je n'arrive pas à maîtriser l'outil informatique pour faire des cartes. Donc du coup, je les fais à la main et ça me permet aussi d'essayer, parce que j'essaye de représenter donc ces parcours migratoires sur lesquels je travaille, et ça me permet d'essayer de représenter autre chose que si je mobilisais uniquement la cartographie conventionnelle, entre guillemets.
Oui, qui est plus sur le cheminement de leur pensée, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils avancent, et vous arrivez à suivre cela.
Dans le cadre de ma thèse, c'est encore à l'état d'exploration. J'ai pu en réaliser quelques-unes cartographies dans le cadre de deux projets, où effectivement, ce que j'ai à cœur, c'est de montrer à la fois le parcours effectif, tel qu'il s'est réellement déployé, mais aussi toute la construction du parcours. Et donc, c'est aussi comment mentalement les personnes fabriquent leur parcours avant de passer à l'action. Et c'est un petit peu ce que j'essaye d'explorer en cartographie à l'heure actuelle. Ouais.
Il y a des choses qui m'ont marqué côté Niger. La passeuse, c'est une dame. Elle va vous mettre dans votre voiture pick-up. Et qui, vous voyez, la voiture pick-up, il n'y a pas plus grand que ça. Mais dans cette voiture, nous étions 20 de 1. Et nous, on était assis les uns sur les autres, entassés. Comme des sardines. Si vous voulez bien voir, vous voyez un peu la position d'un fœtus. C'est comme ça nous étions. Donc du coup, dans cet parcours, le chauffeur, le passeur qui vient, il vous dit ses ordres. La personne qui tombe, je ne m'arrête pas. Avant de faire ce trajet aussi, nous avons 10 litres d'eau, chacun pour faire ce trajet. Ce trajet qui peut faire 3 jours, une semaine, ça peut durer pendant un mois. Et si vous n'avez pas la chance aussi, vous pouvez tomber sur les Touaregs, en plein milieu du désert. Et si vous tombez sur les Touaregs, ils arrachent votre voiture et ils vous laissent en plein milieu du désert. C'est le soleil qui s'en charge de vous. 3 jours avant la montée du zodiaque, on mange un pain par jour. Pourquoi? Pour être constipé, pour ne pas faire n'importe quoi dans le zodiaque. 2, pour être léger. C'est les lois qu'ils imposent. Ils arrachent tous nos téléphones, tout l'argent qui te reste. Tu ne peux pas monter dans le zodiaque avec l'argent en poche ou bien le téléphone. Ils ont des armes, ils ont tout. En fait, la personne qui déconne au bord de l'eau, on te tue. Et dans cette zodiaque de 6 mètres de long, nous étions 54. En plein milieu de la mer, il ne pouvait plus. Le poids qui était dessus. Donc il s'est cassé. Et l'eau a commencé à rentrer.
Thank you.
Kwame, un jeune Nigérien, embarqué comme beaucoup d'autres dans cette aventure dangereuse, et il est en France et il va bien. Ce que l'on n'a pas encore vu avec vous, peut-être François Jemaine, et c'était peut-être le cas de ce jeune Kwame, c'est le lien entre les migrants liés aux aspects climatiques. C'est le sujet climat de ce festival de Saint-Dié, où vous vous rendez demain, je crois, pour en parler. Une fois de plus, vous êtes agacé que l'on fasse des différences. Autrefois, on le faisait beaucoup entre migrants économiques et migrants politiques. Maintenant, c'est le migrant politique et le migrant écologique, comment l'appelle-t-on ?
On a très fort tendance à vouloir aujourd'hui faire rentrer des gens dans des catégories en fonction de leurs motifs de migration. Comme on a pu le faire dans les années 50 ou 60, où les gens migraient de A vers B, d'un pays de départ vers un pays de destination, de façon, je dirais, relativement linéaire, pour un motif précis. Et alors que la recherche avait précisément montré que l'immigration ne se passait plus comme cela aujourd'hui, que les gens passaient par différents pays et différents points, avec des digressions, des bifurcations, des allers-retours, que les parcours n'étaient plus linéaires et que les motifs de migration se mêlaient les uns aux autres, à la faveur de la crise des réfugiés, on a vu revenir en force dans le débat cette dichotomie entre réfugiés politiques d'un côté et migrants économiques de l'autre, sur laquelle nous avons de surcroît posé un jugement normatif, comme s'il s'agissait de considérer que les réfugiés politiques étaient les bons, qu'on pouvait accueillir, et les migrants économiques, les mauvais, qu'il fallait renvoyer dans leur pays comme de vulgaires marchandises. Et là, aujourd'hui, on a un discours très fort qui voudrait imaginer une sorte de nouvelle catégorie migratoire des réfugiés climatiques ou environnementaux, et qui va beaucoup chercher à agiter des peurs en disant « c'est la nouvelle vague migratoire, c'est la nouvelle crise qui nous attend », alors qu'en réalité, ils sont déjà là. Et aujourd'hui, quand vous considérez qu'en Afrique subsaharienne, par exemple, la moitié de la population dépend de l'agriculture de subsistance, qui est un type d'agriculture extraordinairement vulnérable à toute variation de la pluviométrie ou de la température, ça veut dire que les gens migrent aussi parce que l'agriculture ne leur permet plus des revenus suffisants. Et c'est une vue très européenne que de séparer les questions d'économie et d'environnement. Pour la plupart des gens sur cette planète, l'économie et l'environnement, c'est la même chose. Et donc, je crois beaucoup plus intéressant d'essayer de voir aujourd'hui comment les dégradations de l'environnement et les impacts du changement climatique jouent sur l'ensemble des facteurs qui provoquent les dynamiques migratoires, plutôt que d'essayer d'isoler les gens dans des catégories qui, en fait, servent bien davantage à justifier les politiques d'asile et d'immigration mises en place en Europe, plutôt qu'à décrire une réalité empirique de terrain.
Mais soit dit en passant, c'est pas nouveau non plus, d'ailleurs, l'histoire est jalonnée d'exodes qui ont pu être provoqués par des catastrophes. Alors, bien sûr, on n'est pas dans la situation climatique où nous nous trouvons au XXIe siècle, mais des catastrophes, des dégradations
bien
de l'environnement
sûr, certains sont
très ont toujours fait bouger les hommes.
Le tremblement de terre de Lisbonne bien en sûr. 1755, l'exode du Dust Bowl raconté dans Les Raisins de la Colère, et même le peuplement de l'Europe. Les gens sont venus parce que l'Europe jouissait d'un climat tempéré et de ressources naturelles abondantes.
Lucie Bacon, c'est un point qui a été abordé parmi les personnes que vous avez rencontrées, cet aspect climatique où vous étiez plus sur des personnes
alors, pas
confrontées
du tout,
à des conflits.
Que, oui, ouais, peut-être, mais je n'ai pas du tout posé la question, en fait, moi, de la raison de leur départ. Voilà, c'est soit ils se livraient spontanément
même,
sur cette
ouais.
question, en tout cas moi je n'aurais pas posé du tout de questions là-dessus.
Donc, je n'avais pas cherché à le savoir, c'était pas le but.
Non, j'ai pas cherché à le savoir.
Volontairement.
Certains, en tout cas parmi ceux qui se sont livrés spontanément, effectivement c'était plus des raisons d'ordre politique. Je parle notamment là des Syriens, des Irakiens.
Et depuis pas mal d'années maintenant, en fait les chercheurs sont un peu à parler de ces allers-retours aussi. On n'a pas parlé des questions d'allers-retours. Il en a été question auprès de vos migrants. Est-ce qu'ils rêvent au retour ?
Ah, est-ce qu'ils rêvent de rentrer c'est une très bonne question. Parce que j'ai pas eu la chance de les revoir là récemment. Quand je les ai revus, ils venaient d'arriver 15 jours, un mois après que je les ai rencontrés sur la route des Balkans. Donc je sais pas.
Mais vous pensez que ça peut être des éléments,
à
François
Jemaine ? Oui, quand on n'a plus le droit de rentrer chez soi, j'imagine qu'on rêve
puisqu'on
quand même
démolit
de chez soi.
Les
et c'est
priori.
Aussi un des effets de la fermeture des
Absolument,
frontières.
Ouais.
C'est que plein de gens qui sont en situation irrégulière n'osent pas rentrer chez eux de peur de ne jamais pouvoir revenir en Europe et de peur d'être coincé là-bas. Et si nous ouvrions davantage les frontières, ça permettrait aussi davantage d'allers-retours, davantage de circulation. Et paradoxalement, un des effets immédiats de l'ouverture des frontières, si jamais elle advenait un jour, ça serait que bon nombre d'immigrés qui sont en situation irrégulière et qui n'ont pas revu leur famille, leurs amis, parfois leurs enfants depuis des années, en profiteraient sans doute pour rentrer au pays et aller voir les proches qui leur manquent.
Autre point important, on l'a évoqué très rapidement en parlant des fameux 3% qui migrent sur la planète, et la plupart d'entre eux le font plutôt soit dans leur propre pays, d'une région à l'autre, et là ça peut être évidemment lié à des conditions climatiques ou évidemment à des conflits, soit entre pays du Sud, et c'est de loin
très supérieur. Il y a trois fois plus de gens qui migrent à l'intérieur de leur propre pays que de gens qui franchissent une frontière pour migrer. On considère généralement que une personne sur sept, à peu près 1 milliard d'individus sur la planète, habite à un endroit différent de son lieu de naissance, et dans 3 cas sur 4, c'est à l'intérieur du même pays, souvent en ville. Et puis, pour le quart, effectivement, de migrants internationaux qui restent, ce sont les 3% dont nous parlions, il y a des situations très très diversifiées, et on imagine toujours que ce sont des gens qui vont migrer d'un pays du Sud vers un pays du Nord, mais la majorité des migrations mondiales, c'est d'un pays du Sud vers un autre pays du Sud. Si on prend les migrations en provenance d'Afrique de l'Ouest, par exemple, 55% des migrations en provenance d'Afrique de l'Ouest sont dirigées vers un autre pays d'Afrique de l'Ouest. Les migrations en provenance d'Afrique subsaharienne, ça ne représente que 13% des migrations vers la France.
Lucie Bacon, quand achèverez-vous votre thèse, où en êtes-vous?
Il ne faut jamais poser cette question.
Ah, c'est vrai, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, excusez-moi.
Bientôt, dans l'année qui arrive.
Vous êtes en fin de thèse. Non, ça m'intéresse parce qu'il y a tout ce parcours, votre propre parcours aussi, autour de ce travail.
Oui, après, c'est vrai que, a posteriori, on se rend compte que ça a été long sur le coup. C'est un petit peu difficile que ça s'allonge comme ça dans le temps, une thèse. Mais après coup, si on réfléchit 2 secondes à pourquoi, on comprend mieux. Enfin, il y a quand même là en jeu une situation extrêmement difficile à vivre. Enfin, la route des Balkans, c'est pas un terrain facile. Il y a tous ces récits avec lesquels on repart dans son dictaphone, toutes les personnes qu'on a rencontrées. Enfin, voilà, il y a de la distance après à mettre dans tout ça pour écrire, on va dire écrire scientifiquement. Il y a une distance à mettre avec tout ça.
On n'a pas parlé d'ailleurs de ce qui s'est passé après l'accord avec la Turquie. Peut-être qu'on peut en dire un mot, parce qu'on a dit qu'elle était fermée, cette route. Ce n'est pas votre avis?
Non, la route est loin d'être fermée. C'est une déclaration. Ça aussi, c'est une déclaration d'ordre...
En 2016, je crois, cet accord
en
avec la
2016,
Turquie.
En mars 2016, oui, fermée. Tout à fait. Ouais. C'est une déclaration politique qu'on a entendue. La route des Balkans est fermée, la route des Balkans est fermée.
Mais les passeurs s'en sont détournés quand même, non? On s'y intéresse moins.
En fait, ce qui a été fermé, c'est le dispositif du corridor. Le dispositif du corridor a effectivement été fermé. Après, on ne ferme pas une route migratoire. On le voit bien avec les routes en Méditerranée occidentale. Je veux dire, il y a la route Méditerranée centrale, effectivement, est un petit peu plus contrôlée. La route des Balkans aussi est un petit peu plus contrôlé. Bon, et c'est pas grave en fait. Les ressortissants syriens, ils vont se diriger en Mauritanie, puis après ils vont aller à Ceuta Melilla, et puis ils vont tenter de passer par les droits de Gibraltar. Les routes migratoires, elles se déplacent en permanence. Et là aujourd'hui, on voit des choses qui sont d'ailleurs extrêmement compliquées, de ressortissants subsahariens qui prennent l'avion jusqu'en Amérique latine, et puis qui prennent la même route pour remonter ensuite vers la frontière États-Unis-Mexique. Donc, en fait, les routes migratoires, elles seront jamais fermées. Elles se déplacent en permanence. C'est tout ce qui se passe.
Ce que nous a démontré François Germaine, en effet. C'est à présent une petite séquence que nous avons introduite dans toutes nos émissions. La fameuse chanson de Maxime Le Forestier, « Être né quelque part ». C'est une question que je voudrais vous poser à chacun d'entre vous. Vous avez déjà largement parlé d'une certaine forme d'injustice, François Germaine. Lucie Bacon, « Être né quelque part », est-ce que ça a du sens pour vous, là où vous êtes né?
Franchement, pas vraiment. Je suis née à Toulouse, c'est pas une ville que j'affectionne particulièrement.
Enfin, vous ne vous sentez pas de là, plus que...
Je crois pas. Je crois que je me sens... C'est peut-être un peu basique ce que je vais dire, mais je crois que je me sens plus dans le puzzle de l'itinérance, qui est un petit peu ma maison, dans tous ces lieux dans lesquels j'ai pu vivre, que dans la ville dans laquelle je suis née, j'ai grandi, jusqu'à mes 18 ans.
Plutôt des lieux où vous avez vécu des choses fortes.
Ouais.
Sans doute sur la route des Balkans.
En partie.
François Germaine.
Oui, moi, je suis belge et quelque part, c'est l'endroit où je suis né qui, d'une certaine manière, donne sens à ce que je fais comme chercheur. Je suis né à Liège, au sud-est de la Belgique, près des frontières néerlandaises et allemandes. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de naître au cœur de la forteresse Europe, dans un pays riche, libre et démocratique. J'ai eu la chance de naître du bon côté. C'est à la fois un immense privilège et une très grande responsabilité, a fortiori quand on est chercheur sur ces sujets.
Merci beaucoup à tous les deux. Encore un mot, Lucie Bacon, sur cette exposition, j'ai dit un peu vite, itinérante, elle se trouve où ?
Moving Beyond Borders. Oui. Là, à l'heure actuelle, elle se trouve dans des caisses, elle attend d'être appelée pour itinérer.
Pour cause de Covid,
elle a
peut-être.
Beaucoup bougé depuis 2015, mais pour l'instant, elle est stockée à Nantes.
Elle souffre comme beaucoup d'autres événements.
Mais elle va bientôt repartir.
Et quant à vous, François Gémen, on vous retrouve donc à Saint-Dié demain, ce festival de géographie, 31e édition, je l'ai dit, très connu et apprécié des spécialistes. Vous y parlerez bien sûr de votre livre.
Bien sûr, du livre et aussi des migrations liées au climat.
Et liées au climat, qui est votre sujet. Merci encore à tous les deux. Festival de Saint-Dié, donc je le redis, c'est demain, Saint-Dié-des-Vosges. Plusieurs titres et également cartes et expositions à vous recommander. Donc on a parlé de ce Moving Beyond Borders, on attendra qu'elle sorte des cartons, mais elle va le faire. Je voulais parler aussi de l'Atlas des migrants en Europe. Lucie Bacon, juste très vite, dites-nous un mot, parce que c'est important et lié
c'est
à tout ce que nous avons dit.
La dernière édition est sortie en 2017. C'est des cartographies, des photographies et puis des clés de lecture, on va dire, sur les différents outils de la politique migratoire européenne. Voilà, c'est un outil super pour les enseignants du secondaire notamment et puis évidemment...
Et les auditeurs intéressés.
Et puis les auditeurs intéressés, ouais.
Par ces sujets, puisqu'on parle d'Atlas, citons quand même l'Atlas de l'Anthropocène de François Gemène, extrêmement utile, je peux en témoigner,
pour
y revenir. Avec beaucoup d'entrées, il est tout à fait intéressant. Et donc, on a tous un ami noir pour en finir avec...
Les polémiques stériles sur les migrations, et donc c'est paru hier chez Fayard.
Merci encore, je voulais encore signaler plusieurs ouvrages. Sur notre site, nous allons tous les ranger pour vous, les travaux notamment de David Lussault, vous avez parlé d'Olivier Clochard, des travaux de Migre Inter, beaucoup beaucoup de choses à lire. Merci aussi à notre équipe, bien entendu Anne-Laure Chanel, réalisé notre émission ce soir, en compagnie encore une fois de Marie, le peintre que l'on remercie. Catherine Donnet, Sandrine Chaperon s'occupe, elle, du site et de tout ce qui va le nourrir. Très très bonne soirée à tous. Dans un instant, les informations et nous à jeudi prochain.